Alors après l'euphorie immédiate de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une situation ambiguë, sinon confuse, s'est établie sous l'image de l'apocalypse nucléaire. D'une part, on a trouvé et s'est développé un goût renouvelé pour la jouissance d'un monde à nouveau accessible et reconquis contre l'oppression nazie de la Seconde Guerre mondiale, et de l'autre, un sentiment de terreur devant les capacités de violence et d'aliénation des individus, mais aussi des institutions. On va voir dans cette période, dans cette première période, les cinéastes anglais d'un petit groupe appelé Free Cinema, qui se trouvent dans cette perspective à la fois d'inquiétude et de contentement et de joie débridée. Et l'un d'entre eux, Lindsay Anderson, va déclarer, je le cite, Le rôle du cinéma n'est pas d'inciter à une action politique, mais de rendre possible une prise de conscience en redonnant aux classes populaires le sens de leurs valeurs humaines, de leur importance, de leur dignité. Alors, des films sont dès lors tournés avec très peu de moyens, en 16 mm, c'est-à-dire des caméras légères, des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels et dans des situations réelles. En 1956, un manifeste du Free Cinema déclare, je cite encore, Nos films ont une attitude en commun. Implicite dans cette attitude est notre croyance en la liberté, à l'importance des individus et à la signification du quotidien. Une attitude veut dire un style veut dire une attitude. Alors, les films les plus représentatifs de cette courte période sont Thursday's Children de Lindsay Anderson, qui date de 1954, We Are the Lambeth Boy de Karl Reich, 1959. Le film d'Anderson est un film sur l'éducation des sourds-muets, et c'est un film dans lequel il y a un commentaire encore, mais en fait, ce commentaire, on pourrait s'en passer complètement. Il est sans fin et il double ce que dit parfaitement l'image en permettant de circuler au milieu des sourds-muets. On s'aperçoit là que l'image parle, si on peut dire à propos des sourds-muets. L'image montre et s'exprime, nous exprime. Et le film de Reich, par contre, avance encore dans cette direction d'un cinéma direct. Il introduit justement des discussions qui sont tournées en son synchrone et la voix de l'autre parle enfin pour lui-même. On ne parle pas à sa place. Il s'engage dans une réalisation dont il était jusqu'à présent l'invité passif. Les gens filmés s'expriment d'eux-mêmes. Et à propos de ce film, justement, Edgar Morin va lancer l'idée un peu périlleuse, je crois, mais quand même, qui va faire beaucoup de bruit, de cinéma vérité. Le temps est venu, malheureusement, aux États-Unis, d'une sévère répression politique contre les militants d'une pensée plus ou moins révolutionnaire qui s'était fait jour un peu au cours de la guerre. Et ces auteurs d'images de revendications et de contestations sont un peu contrés par le macartisme qui va pourchasser les cinéastes, dont certains, cependant, vont continuer et réussir à produire de façon indépendante. On peut peut-être même dire que la répression contre eux a été un moment et une détermination plus forte. Et on va voir quelqu'un comme Lionel Rogozin, qui déclare dans une interview à l'hebdomadaire français L'Express du 15 novembre 1959, je le cite encore, qu'il veut montrer, je cite donc, montrer ce qu'on évite de voir, montrer des hommes ignorés. Il avait déjà tourné en 1956, après une longue enquête, un film sur les clochards alcooliques de New York, On the Bowery. Et surtout, il y a un personnage principal de ce film, dans ce film qu'il va suivre pendant 3 jours, dans une sorte d'intimité assez troublante, avec cette société en désespérance, il faut bien le dire. Rogozine avait établi à l'avance une ligne dramatique selon une enquête préalable. Il avait étudié le milieu et donc il avait construit l'idée d'un film. De cette façon-là, il appliquait en quelque sorte les principes vertoviens. C'est la méthode qu'il appliquera avec encore plus de rigueur en filmant plus tard clandestinement le problème racial en Afrique du Sud, au plus fort de l'apartheid, dans un film qui s'appelle « Come Back Africa » qui date de 1959. Il construira en effet un scénario posant ainsi très tôt la question de la relation entre réalité et fiction et de l'usage de l'un par l'autre. Rogozine rend compte d'une nécessité relative à certaines situations limites ou certaines situations à risque. Les personnes engagées dans le tournage sont impliquées de telle façon que leur présentation à l'image devient un véritable danger pour elles. La subjectivité du réalisateur est nécessairement à l'œuvre et joue elle aussi, dans cet intervalle qui lie et sépare en même temps l'improvisation avec le choix orienté d'une mise en situation dramatique. Le cadre est fixé à l'avance et dans ce cadre, les acteurs, si on peut dire, développent effectivement des interventions qui mettent en cause le réalisateur. Alors on trouve ici aussi quelqu'un comme un grand réalisateur américain, pour moi, John Cassavetes, qui, lui, était délibérément dans la fiction. Mais il va utiliser, lui aussi, l'improvisation pour approcher, dans le cadre d'un scénario, une expression dramatique de la réalité et l'intensité vécue d'une situation donnée. Dans une première version non diffusée du film Shadows, un de ses plus grands films, qui date de 1958, les interactions des personnages sont improvisées, vécues dans l'immédiateté des comportements. Et c'est elles qui font la narration que suit la caméra. Quoi qu'il arrive, la caméra suit ce qui arrive dans la relation entre les personnages qui improvisent leur texte, s'il y avait un texte. Les liens entre les personnages sont au cœur de l'action en réalité. Et les événements eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui est raconté dans l'histoire du scénario, ne sont que des conséquences secondaires. La seconde version de Shadows, qui date de 1960, qui a été la seule qui a été diffusée, apparaît beaucoup plus limitée et orientée. Elle rejoue en quelque sorte à partir de l'improvisation initiale. Néanmoins, cette version reste pour moi tout à fait passionnante et provocatrice d'une certaine façon pour l'époque. À l'inverse de cette improvisation à l'intérieur d'un cadre préétabli de scénario, on voit Shirley Clarke faire un film, The Connection, en 1962, qui est entièrement construit mis en scène, joué par des acteurs professionnels, mais de façon à donner l'impression d'un filmage en direct, l'impression d'une improvisation. Alors, c'est par exemple, on entend dans le film les indications données par le réalisateur, comme si c'était dans l'urgence d'un direct, d'un filmage en direct. On entend, comme si c'était un reportage, le réalisateur dire « Non, déplace-toi, mets-toi là, fais ci, fais ça, etc. » Mais cette apparente improvisation est préalablement fixée. Alors, c'est la création définitive d'une illusion réaliste par l'utilisation délibérée des défauts et des maladresses du direct. Les défauts et les maladresses du direct sont prévus à l'avance, en quelque sorte. Alors, ce procédé a été utilisé de plus en plus à partir des années 80 et deviendra un véritable poncif, il faut bien le dire, des thrillers américains et des séries télévisuelles. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'évoque ce film, Shirley Clarke va réaliser en 1967 le portrait d'un prostitué noir, Portrait of Jason. Et c'est, je crois, le modèle, en quelque sorte, d'une approche guidée essentiellement par le sujet lui-même. Et par sa façon de raconter son histoire, d'exprimer ses sentiments, et c'est cela qui construit la narration. L'élément décisif de la narration est le facteur temps, puisque l'intensité même du témoignage va croître au fur et à mesure du tournage et de l'organisation de soi par Jason, l'acteur, le héros du film, qui se transforme pour n'être plus, à la fin, qu'un spectacle qu'il se donne à lui-même. Et c'est un personnage dont le délabrement progressif fait toute l'action et toute l'intense et triste vérité du film. Alors, ce pose, effectivement, c'est un clochard et un alcoolique, et après avoir organisé quelque chose, peu à peu, il se laisse aller à être lui-même devant la caméra et à tirer la caméra vers lui. Se posent alors évidemment les questions qui ne sont pas négligeables du tout, qui sont celles des limites de l'exposition de soi. Jusqu'où peut-on entrer dans l'intimité d'un personnage? Quelles sont les limites d'un exhibitionnisme dangereux et pénible pour lui éventuellement? Se pose aussi la question de la signification des confessions, du passage de l'exposition individuelle et de l'expérience psychologique à l'expérimentation et à la traduction individuelle vécue d'une situation plus générale. Ce passage par l'individu est trop individuel, mais aussi l'individu traduit ce qui l'entoure.